Bonsoir. Signature la semaine dernière à Kinshasa d'un accord entre le gouvernement congolais et les Nations Unies pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Par cet accord, les deux parties s'engagent à prévenir et résoudre le problème des violences sexuelles qui se posent en RDC. Cependant, l'ONG La Voix des Sans-Voix demande au gouvernement d'aller au-delà de cet accord en sanctionnant les auteurs des violences sexuelles. Quelle analyse faire de cet accord? Quel pourrait être son impact dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC? Nous recevons pour en parler Mme Florence Boloko, directrice générale adjointe du Centre national de diffusion de l'information sur la femme et la famille au ministère du Genre, Famille et Enfants. Mme Florence Boloko, bonsoir.
Bonsoir, M. Alain.
Maître Guy Mouchata, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Maître Mouchata, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Professeur Georgette Biébié, militante pour la promotion des droits des femmes et présidente honoraire du caucus des femmes congolaises. Professeur Biébié, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Merci à vous, chers auditeurs internautes, pour vos réactions. Ousseini Kianza de Goma au Nord qui vous dit « Je pense qu'il y a longtemps que notre gouvernement s'est engagé dans la lutte contre les violences sexuelles. Ce n'est pas cet accord qui y mettra fin. » Gabriel Kachimba de Kinshasa, le gouvernement congolais devra à court terme renforcer la justice tant militaire que civile. À long terme, il doit reformer l'enseignement en instituant la culture du respect de la personne humaine, en introduisant des cours dès la maternelle. Bienvenue dans l'émission politique de Radio Capi.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un accord pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles en RDC a été conclu la semaine dernière entre la RDC et l'ONU à Kinshasa. En signant cet accord, le Premier ministre Matata Ponyo et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée des violences sexuelles en zone de conflit, Zainab Bangoura, ont souligné la nécessité de neutraliser les groupes armés et d'initier un processus efficace de réforme du secteur de sécurité. Mais l'ONG La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme demande au gouvernement d'aller au-delà de cet accord en sanctionnant les auteurs des violences sexuelles. Jeff Ngoy pour les détails.
Matata Ponyo et Zainab Bangoura se disent préoccupés par la persistance des violences sexuelles commises par les hommes en armes, principalement dans l'est de la RDC. La représentante onusienne vient juste de séjourner dans les deux provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'en province orientale où ces exactions sont perpétrées. Cet accord intervient au moment où expire l'ultimatum lancé par les Nations Unies à la RDC pour punir ses soldats accusés de viol en novembre dernier à Minova au Nord Kivu. La VSV qui soutient cette ultimatum insiste pour que cesse l'impunité des criminels. Son directeur exécutif Doli Ibefo en appelle au respect de la femme.
Il y a toujours des promesses de lutter contre ces viols. En réalité, le nombre ne fait que accroître. Il faut que la guerre qui utilise le corps de la femme comme terrain puisse s'arrêter. Les accords, oui, mais nous attendons que la femme congolaise, la jeune fille, surtout à l'Est, doit être respectée et que tous les auteurs soient sévèrement punis.
Au terme de l'accord, certaines mesures sont prévues par Kinshasa afin de prévenir les violences sexuelles. Il s'agit d'éviter d'intégrer des criminels dans les rangs des forces armées, d'assurer la réparation et d'assister les victimes.
Merci Jeff Ngoy, Madame Florence Boloko. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du Centre national de diffusion de l'information sur la femme et la famille au ministère du Genre, Famille et Enfants. Madame, quelle est la nouveauté dans cet accord signé entre la RDC et l'ONU?
Moi, je crois que la nouveauté dans cet accord, c'est toute la stratégie qui est mise en place pour une nouvelle façon de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en période de conflit, mais également les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas en période de conflit, qui ne sont pas dans des zones en conflit. La nouveauté également, c'est le fait que le ministère du Genre a des outils. Maintenant, il y a la loi 006, il y a la stratégie nationale, genre, la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles depuis 2009. Il y a également une base de données qui a été mise en place par le ministère du genre pour essayer justement de coordonner cette action de lutte contre les violences faites à la femme et aux filles en zone des conflits et en zone qui ne sont pas en conflit.
Madame, il y a Gabrielle Bolemba qui nous écrit de Kinshasa qui dit « La force d'un État se trouve dans le respect de l'esprit et la lettre de la loi. Le Congo a des textes qui sanctionnent les violences sexuelles dans la théorie qui malheureusement dans la pratique ne trouvent pas leur application. C'est ça le problème. Le vrai problème n'est pas l'absence des textes. Nous avons une nouvelle loi du 20 juillet 2006 contre les violences sexuelles et nous avons encore la nouvelle législation sur la protection des enfants. Mais ce qui manque, c'est l'application de toutes ces lois. Cet accord, madame, finalement, parce qu'il y avait déjà des lois qui existent, n'est-ce pas un accord de trop ?
Ce n'est pas un accord de trop, d'autant plus que le problème est réel sur terrain. Le problème demeure. Et là, je pense que les Nations Unies qui s'en mêlent pourront mettre la main à la poche pour essayer de juguler ce problème et essayer de le traiter à la racine. Et je ne pense pas que cela soit un accord de plus à partir du moment où cela vient d'être signé par le Premier ministre lui-même qui prend l'engagement de pouvoir lutter contre les violences en collaboration, en partenariat avec les Nations Unies, avec toutes les agences des Nations Unies, toutes les organisations internationales, mais également les organisations des femmes qui sont sur la question depuis longtemps. Même, c'est vrai que la question s'est passée jusque-là sans beaucoup trop de coordination, sans que le gouvernement s'en mêle. À l'est du pays, il y a un foisonnement d'organisations internationales qui sont en train de lutter sur la question des violences sexuelles. Mais il n'y avait pas une coordination. Et maintenant, le gouvernement va prendre la coordination de toutes ces actions pour essayer de voir comment, sur terrain, venir en aide aux différentes victimes de ces différentes violences, des différentes exactions commises sur les femmes et les filles, mais également sur les enfants.
Alors, vous dites que les Nations Unies pourront cette fois-ci mettre la main à la poche, mais il y a des auditeurs qui disent notamment qu'il y a beaucoup de lois mais qui ne sont pas appliquées. Est-ce un problème de volonté politique ou des moyens ?
Moi, je crois que les deux vont ensemble. Il y a la volonté politique mais également les moyens qui ne suivent pas. Mais nous avons deux lois. Par rapport à cela, nous avons toute une stratégie au niveau du ministère du genre et nous avons la loi sur la parité qui est encore au niveau du Parlement. J'espère qu'avec cette session, elle va être mise, elle sera à l'ordre du jour et que cela pourra aboutir. Mais il y a la loi, c'est vrai, qui n'est pas mise en œuvre, mais les moyens doivent accompagner également pour que les femmes sur terrain puissent faire leur travail, pour que les organisations nationales puissent également être impliqués et véritablement dans cette lutte contre les violences sexuelles. On dit qu'on a englouti des fonds. Oui, mais ces fonds sont venus d'où? Mais qui les a engloutis? Et qui a fait cela? Et quels sont les rapports qui sont donnés par rapport à cela? C'est comme ça que le gouvernement, en fin de compte, je me dis, prend la chose au sérieux et se dit, il s'implique personnellement dans la signature de cet accord. Je ne pense pas que le Premier ministre va remettre en cause sa signature. Et là, il pourra être interpellé par les femmes. Si jamais nous voyons que les choses piétinent et que l'action n'avance pas, c'est le Premier ministre lui-même qui prend cet engagement.
Madame, vous évoquez également l'absence de coordination, plusieurs structures qui s'occupent des violences sexuelles, mais pas de coordination. C'est quand même grave quand on sait que la RDC est l'un des pays qui est très mal classé en matière de violences sexuelles.
Là, c'est en termes des rapports. Est-ce qu'il y a des organisations qui sont à l'est du pays, qui rendent compte en dehors des UNFPA, qui rendent compte au ministère du genre pour donner, par exemple, des chiffres exacts des victimes de ces différentes violences, de ces différentes exactions. Il n'y a pas de chiffres corrects. On ne sait pas. Il y a UNFPA qui se bat pour donner des chiffres et d'autres organisations internationales, d'autres agences peut-être qui se battent. Je pense qu'il y a l'UNICEF aussi qui est dans la danse, qui essaye d'apporter au ministère du genre. Mais les autres organisations font leur travail sans pouvoir tenir compte de l'autorité qui est le ministère du genre, qui a maintenant depuis quelques mois une base de données fait. Et donc, tous ces gens devraient, en principe, harmoniser avec le ministère du genre pour apporter des données, pour apporter des chiffres, pour rendre compte, pour donner des rapports au niveau du ministère du genre, pour que l'on sente, pour que l'on sache qu'il y a véritablement, le ministère du genre pourrait coordonner cette action. Si jamais il y a toutes ces données, tous ces rapports qui arrivent, le ministère du genre a des services. Il y a toute une agence qui a été mise en place, l'Agence nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais également, il y a un fonds national mis en place justement pour s'occuper de ces femmes. Et donc, s'il n'y a pas de coordination, et donc si le gouvernement n'est pas informé sur le problème réel, sur le nombre réel de victimes, monsieur Alain, dites-moi, comment pourrait-il intervenir?
Professeur Georgette Biébier, vous êtes militante pour la promotion des droits des femmes et présidente honoraire du caucus des femmes congolaises. Comment vous analysez cet accord entre la RDC et l'ONU sur les violences sexuelles? Professeur Biébier? Voilà, la réalisation va tenter de la retrouver. Maître Guy Mouchata, est-ce que vous nous suivez? Maître Guy Mouchata? Voilà, nous avons perdu professeur Georgette Biébier, militante pour la promotion des droits des femmes et présidente honoraire du caucus des femmes congolaises, ainsi que Maître Guy Mouchata, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Madame Florence Boloko, je reviens à vous. Il y a des auditeurs qui nous écrivent. Yvon Kalombo de Mbujimayi au Kasaï-Oriental. On ne peut rien attendre de cet accord, d'autant plus qu'on sait que le gouvernement congolais champion dans la signature des accords et on attendra jusqu'au retour du Christ quant à leur application. Jean des Dieux Mungwana de Goma Nord Kivu, cet accord est bon pour notre pays car nous avons une mauvaise réputation dans cette matière. Est-ce que notre gouvernement respectera ces accords alors qu'il n'a jamais montré devant l'opinion nationale et internationale les coupables qui avaient violé et pillé Aminova? Madame Florence, il y a déjà des doutes quant à l'application de cet accord par le gouvernement congolais.
Moi, je pense que on devrait faire confiance à notre gouvernement. L'accord vient d'être signé. C'est à peine quelques semaines que l'accord venait d'être signé. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes de collaboration, de partenariat. Il faut mettre en place des mécanismes pour arriver à mettre à exécution ce rapport, ce texte-là. Il faudra des mécanismes. Il faudra que, au niveau du ministère du genre, je pense que des choses ont déjà commencé. Nous avons, je vous ai dit qu'il y a toute une agence, l'Agence nationale de lutte contre les violences, basée sur le genre, mise en place depuis 2010. Et cette agence, elle est fonctionnelle. Elle est là, elle fait des choses. Et donc, je pense que les Nations Unies et le ministère du genre devraient se retrouver autour d'une table pour étudier, pour examiner la faisabilité et la mise en œuvre de ce communiqué. Parce que ce sont deux personnalités à un très haut niveau d'un État et d'une institution qui ont mis en place, qui ont signé ce texte-là. Je ne pense pas qu'ils aient signé ce texte pour le beau yeux du monde, pour tout simplement faire entendre leur voix et que l'on dise on a signé un texte en RDC par rapport à la lutte et voilà la tournure que cela va prendre. Si peut-être jusque-là les choses n'allaient pas, le ministère du genre va essayer de rectifier le tir pour que les choses puissent marcher normalement.
Merci Madame Florence Boloko. Professeur Georgette Biébier, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez?
Oui, je suis toujours en ligne, je vous suis.
Voilà, je rappelle que vous êtes militante pour la promotion des droits des femmes et présidente honoraire du caucus des femmes congolaises. Madame, comment vous analysez cet accord signé entre la RDC et l'ONU sur les violences sexuelles?
Merci. Je voudrais d'abord appuyer tout ce que Madame Florence Boloko a dit, parce que c'est une militante avec laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles initiatives dans la lutte contre les violences faites aux femmes en RDC, elles sont les bienvenues dans les combats que nous menons depuis plusieurs années pour que les violences sexuelles, les violences basées sur les genres faites aux femmes soient prises en compte, que la population tout entière, que les autorités prennent conscience qu'il existe un problème réellement dans ces pays Et le fait que cet accord soit signé, nous nous réjouissons parce que, comme l'a dit Mme Boloko, c'est un accord qui est signé à un niveau très haut de notre État. Et nous espérons que cette fois-ci, le signataire de cet accord va le mettre en application parce que nous avons un grave problème de non-respect de la signature des engagements pris dans notre pays.
Alors, de votre point de vue, madame, quelle serait la nouveauté dans cet accord?
La nouveauté, c'est la reconnaissance de notre combat à un haut niveau, parce que ça fait plusieurs années que nous nous battons contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Vous vous souvenez qu'en 2010, en octobre 2010, il y a eu une très grande marche, la marche mondiale des femmes pour la paix. C'est une marche qui a regroupé des femmes de 50 pays qui sont venues en RDC. Nous avons fait cette marche à Bukavu. Elles sont venues nous témoigner leur solidarité contre les violences faites aux femmes en RDC. Et nous avons demandé à ces femmes d'être nos ambassadrices, de porter notre combat à l'échelle internationale. Je pense que c'est l'un des résultats de cette grande marche mondiale pour la paix que nous avons organisée en RDC. Et le fait que ces combats soient reconnus à ce niveau-là, c'est une nouvelle approche. Et nous pensons, nous croyons sincèrement que cette fois-ci, les auteurs des violences seront traduits en justice et seront sévèrement sanctionnés. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'il y a des femmes, des victimes qui n'osent plus parler parce que quand on porte plainte, on arrête les auteurs quelques jours après ou quelques mois après, ils sont de nouveau en liberté. Mais du fait qu'on commence à envoyer des chefs de guerre à La Haye, c'est une très bonne chose pour nous. Du fait qu'il y ait cet accord entre notre gouvernement et les Nations Unies, c'est une très bonne chose pour nous également. C'est un processus. La lutte contre les violences faites aux femmes, violences sexuelles et violences basées sur le genre, c'est un procès, un long processus. Nous nous battons pour que cela soit réduit, pour que cela soit éradiqué plutôt. Donc, toutes les bonnes initiatives qui arrivent nous encouragent dans notre combat.
Alors, madame, dans cet accord, le gouvernement s'engage notamment à accélérer la mise en œuvre d'une stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Ce n'est pas la première fois. Ça fait près de 10 ans qu'on parle de la réforme des services de sécurité, de l'armée, de la police nationale, mais ça semble tirer en longueur.
Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un processus. Le mal est profond. Le Congo est confronté à plusieurs défis. Je crois qu'on y va petit à petit, doucement. Et le fait qu'il y ait cet accord, je crois, va pousser le gouvernement également à finalement réaliser cette réforme de l'armée, cette réforme de la police. Donc nous sommes dans un processus. Nous sommes en train de vouloir construire un état de droit. Chez nous, nous avons beaucoup de problèmes et à chaque fois qu'il y a un petit effort qui est fait, en tout cas nous l'apprécions et nous encourageons notre gouvernement d'aller de l'avant, de respecter les engagements qu'il prend vis-à-vis des Nations Unies, vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis des femmes congolaises. Parce que tous ces hommes qui sont au pouvoir ont été élus par les femmes, qui sont l'électorat majoritaire dans cette nation, dans ces pays. Je pense qu'il est temps que ces hommes qui sont au pouvoir se rappellent que s'ils sont là-bas, les femmes ont contribué à leur élection et ils ont le devoir de nous rendre l'ascenseur en défendant les droits les droits des femmes qui sont violées, les droits des femmes qui sont victimes de violences basé sur le genre et des violences sexuelles.
Alors, madame, le problème des violences sexuelles en RDC semble ne pas être pris à sa juste mesure. De votre point de vue, est-ce un problème des moyens ou un problème de volonté politique quand on peut se demander quelle est la part du budget allouée à ces secteurs?
C'est comme je vous ai dit, le Congo est confronté à plusieurs défis. C'est un défi important auquel également le Congo est confronté. Mais comme l'a dit Madame Boloko, il fallait des mécanismes, il fallait des outils. Et petit à petit, je crois que la volonté politique, elle va suivre avec la signature de cet accord. Il n'y a pas que cet accord. En novembre 2011, les chefs d'État, membres de la région de Grand Lac, ont également signé la déclaration de Kampala. Et dans cette déclaration de Kampala, il y a trois axes. C'est la prévention des violences sexuelles et des violences basées sur les genres. C'est la lutte contre l'impunité et c'est la prise en charge des victimes de violences. Donc, cette bonne volonté, je pense qu'avec cet engagement qu'ils viennent de prendre, va se manifester petit à petit. Et les moyens suivront, j'espère, les moyens suivront pour mettre en pratique. Madame Florence Bolog vous a parlé de l'agence de lutte contre les violences sexuelles. L'agence est là. Nous avons déjà une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a quand même la volonté, elle est là, mais elle doit être accompagnée de moyens. Et j'espère que les moyens seront enfin trouvés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas un sujet primaire, cela doit devenir un sujet important, un sujet qui préoccupe les autorités de notre pays.
Maître Guy Mouchata, est-ce que vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Je suis là.
Vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Comment vous analysez pour votre part cet accord entre la RDC et l'ONU sur les violences sexuelles quand on se souvient qu'il n'y a pas longtemps au niveau de la justice transitionnelle, vous avez publié un rapport où vous fustigez la lenteur du gouvernement congolais à rémunérer les victimes.
Oui, effectivement, nous avons publié un rapport qui a été dénommé déni de justice. Les victimes de guerre ne reçoivent pas les indemnisations ou la réparation pour les crimes qu'elles ont subis. Et l'accord qui vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les Nations Unies, nous saluons cet accord, mais en même temps, nous revenons sur les préoccupations qui sont fondamentales quant à la lutte contre les violences sexuelles. Et non seulement les violences sexuelles, mais toute la lutte qui doit être menée contre les crimes qui sont commis en RDC. On a tendance évidemment à focaliser seulement sur la question de violences sexuelles, mais on connaît tous que l'ampleur des crimes qui sont commis dans notre pays ne couvre pas seulement les violences sexuelles. Nous avons des meurtres en chaîne, nous avons des massacres, nous avons des coups et blessures, nous avons des pillages qui sont commis à une échelle que ceux qui approchent la réalité peuvent découvrir. Donc dans ce sens, nous pensons que l'accent doit être mis sur l'ensemble des crimes, mais aussi en particulier sur les crimes basés sur les genres et notamment les violences sexuelles. Ceci dit, je m'en vais juste au contenu de l'accord et je vais prendre le point le plus important à mon avis qui concerne la justice. Pourquoi la justice ? Parce que l'ensemble des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre doivent culminer sur la justice. C'est par la répression qu'on peut faire réellement la prévention et décourager les délinquants. Et pour que cette justice se mette en œuvre, effectivement, il faut aller aux causes profondes qui font qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les violences sexuelles qui sont commises à côté des autres crimes. Et la cause principale se trouve être l'insécurité qui est entraînée par la guerre et les différents conflits armés. Dans ce sens, le gouvernement devait véritablement s'engager à faire la réforme du secteur de la justice, à disposer d'une armée qui soit dissuasive et capable de pouvoir sécuriser l'ensemble du territoire. Ce qui permettra d'abord de pouvoir limiter la commission des exactions et deuxièmement permettre à la justice de pouvoir travailler normalement. Le deuxième volet concerne la justice. Il faut donner à la justice des moyens important pour qu'elle puisse exercer exactement la mission qui est la sienne de pouvoir réprimer. Parce que vous savez, dans une société, lorsqu'il y a les délinquants, ceux-ci ne peuvent être découragés que lorsque la chaîne pénale fonctionne normalement. Et l'accent doit être mis ici, comme nous l'avons fait au niveau du rapport, sur un certain nombre de points, notamment la facilitation de l'accès des victimes à la justice, les mesures de protection qui doivent être prises. Vous savez que dans ce sens, les lois qui ont été prises par la RDC sont assez limitées.
Maître Mouchata, Voilà, nous venons une fois de plus de perdre Maître Guy Mouchata, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Nous allons nous rendre à Bounia, en province orientale, en Ituri. 20 ans de servitude pénale principale, c'est la peine la plus lourde prononcée hier mardi à Bounia contre un soldat des FARDC accusé de viol sur une fillette de 7 ans. 6 autres militaires écopent des peines allant de 3 à 10 ans pour les mêmes faits. Ces arrêts sont rendus par la cour militaire de Kisangani qui siège en chambre foraine dans ce district. Il s'agit des dossiers pour lesquels les prévenus avaient interjeté appel au second degré. Jean-Claude Loki.
Le militaire condamné à 20 ans de prison était caporal des FARDC. Il était accusé d'avoir violé une fillette de 7 ans. Ce caporal venu au marché pour acheter de l'huile de palme avait oublié chez lui le récipient. Il s'est fait accompagner par la fille de la vendeuse pour récupérer le bidon lui prêté par sa mère. C'est alors que le bourreau va profiter pour commettre ce forfait à son domicile. Un autre cas est celui d'un militaire qui a violé une fille de 22 ans après l'avoir menacée à l'aide de son arme de guerre. Les juges ont retenu à sa charge une peine de 10 ans d'emprisonnement. Cela s'est passé à Kabona, localité située en territoire du Romo. En Djougou Centre, un militaire a violé une femme dans un amigo qu'elle partageait avec la victime. Il a été condamné à 3 ans de servitude pénale. D'autres jugements ont été prononcés la semaine dernière contre 5 soldats poursuivis également pour violence sexuelle. Au total, cette juridiction militaire doit statuer sur une 20aine de dossiers, dont la plupart portent sur des cas de viol. Signalons que ces audiences en chambre foraine bénéficient de l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement, tenu dans sigle. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude Loki. Maître Mouchata, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis là.
Voilà, nous venons là de suivre une illustration à Bounia en Ituri. En début d'émission, je disais que l'ONG La Voix des Sans Voix demandait au gouvernement d'aller au-delà de cet accord en sanctionnant les auteurs des violences sexuelles. Là, il y a des gens qui ont été condamnés, des militaires qui ont été condamnés, mais souvent on fustige, vous au niveau des ONG, vous fustigez le fait que souvent ces militaires s'évadent et après les dossiers restent sans suite.
Oui, effectivement. Il y a une nécessité, je dirais sérieuse, qu'on fasse au niveau du gouvernement la réforme du secteur pénitentiaire. Parce que dans les cas que nous avons suivis depuis un certain nombre d'années, la plupart des condamnés pour les violences sexuelles, comme pour les autres crimes, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou d'autres types d'exactions, s'évadent souvent. Et dans le rapport que nous avons publié dernièrement, la plupart des crimes dans 4 procès importants, notamment le procès Songo Mboyo, qui est connu du point de vue international et du point de vue national par tous, tous ces condamnés dans ces procès se sont évadés. Mais j'aimerais aussi revenir sur un aspect important justement de cette répression, qui est la réparation. Vous savez, la réparation est pour la victime l'élément essentiel qui, pour elle, la restaure dans ses droits. Mais que constatons-nous sur le plan de la justice au niveau national? Lorsque les jugements sont prononcés, ni les condamnés particuliers ne payent les dommages internes, ni moins encore l'État. Et nous avons toujours appelé que l'État puisse mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes, en ce compris les victimes de violences sexuelles. Pour la raison suivante, toutes les victimes au niveau de la RDC qui se comptent par millions, ne pourront pas accéder en justice. Vous savez que notre justice a une capacité limitée, et même si elle n'était pas limitée, pour diverses raisons, la plupart des victimes ne pourront pas avoir accès à la justice. Mais cependant, ces victimes ont droit à une réparation. Et je constate que dans l'accord signé par le gouvernement avec les Nations Unies, il y a cet aspect important. Donc le gouvernement s'engage à assurer la réparation aux victimes de violences sexuelles. Et j'élargis que le gouvernement doit s'engager à assurer la réparation à toutes les victimes des crimes de violation grave du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, y compris évidemment les victimes de violences sexuelles. D'où la nécessité de mettre en place un programme administratif de réparation. Généralement, lorsque nous abordons cette question, on nous pose la question, qu'est-ce que veut dire un programme administratif de la réparation? Les expériences existent à travers le monde où le gouvernement décide de pouvoir répondre aux besoins des victimes à moyen et à long terme. Et dans les cas des victimes de violences sexuelles, la première démarche doit être de s'assurer que celles-ci ont accès aux soins de santé immédiats dont elles ont besoin après la commission des crimes. Et en plus de cela, il faut garantir un minimum de besoins de survie à court terme pour que ces victimes ne tombent pas dans une vulnérabilité qui va encore fragiliser la situation sanitaire et la situation d'insertion socio-économique. Mais à moyen et à long terme, il faut arriver à indemniser ces victimes. Et dans ce sens, le gouvernement doit mettre en place ces programmes de réparation. Et je pense que si on en arrive à ce niveau, si le gouvernement prend ça à cœur, on aura fait un pas de géant pour la reconnaissance des droits de ces victimes et pour la prévention et les rejets par l'ensemble de la société, n'est-ce pas, de ces crimes odieux que constituent les violences sexuelles.
Merci, Maître Mouchata. Quel pourrait être l'impact de cet accord signé entre le gouvernement congolais et les Nations Unies dans la lutte contre les violences sexuelles? La société civile du Nord Kivu estime que si le contenu de cet accord est appliqué à la lettre et que les auteurs des violences sexuelles sont réellement sanctionnés, cet accord pourrait être une grande avancée dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC, surtout pour la population du Nord Kivu. On écoute Maître Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, au téléphone de Kevin Kouté.
Au niveau de la société civile du Nord Kivu, nous pensons que la signature de cet accord, c'est déjà une avancée vers la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Et en province du Nord Kivu, où les violences sexuelles sont de grande ampleur, nous attendons voir se concrétiser les divers engagements couchés dans cet accord par les gouvernements. Parce que nous savons que si cet engagement est respecté, c'est le Nord Kivu, c'est l'Est du pays qui sera bénéficiaire, surtout que c'est ici où se commettent des violences sexuelles de grande intensité. Et nous savons certes que la signature d'un accord, c'est F1, et la mise en application, c'est énorme. On ne doit pas se limiter à signer des accords. On en a signé assez, mais la mise en application pose problème. Le gouvernement doit faire de la lutte contre les violences sexuelles son cheval de bataille, c'est-à-dire il doit sanctionner les auteurs. Les différentes juridictions censées sanctionner les auteurs de ces crimes doivent fonctionner normalement. Et on doit constater matériellement que les auteurs de violences sexuelles sont sanctionnés, ils sont condamnés, ils purgent leur peine. Nous voudrions voir que cet accord soit un ouf de soulagement pour la population du pays.
Maître Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, qui intervenait au téléphone de Kéline Kouté. Madame Florence Boloko, quel pourrait être, d'après vous, l'impact de cet accord dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC?
Moi, je pense, merci beaucoup. Moi, je crois que l'impact, c'est justement cette nouvelle approche de la lutte contre les violences sexuelles. Vous avez vu que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, quand elle est arrivée, on dirait qu'elle avait déjà ciblé ses interlocuteurs. Elle a vu le premier ministre, elle a vu la ministre du genre, elle a vu la ministre de la justice, elle a vu le ministre des médias, elle a vu l'auditeur général, elle a vu le ministre de l'Intérieur. Je pense que tout est réuni.
Et même le président de la République.
Et même le président de la République au finish. Donc à la fin de son séjour, elle a rencontré le président de la République. Donc c'est tous les décideurs pratiquement qui ont été atteints. Le président de la République, c'est lui qui impulse. Le premier ministre, c'est dans son programme du gouvernement. La ministre du genre, c'est sa matière. La ministre de la justice, en ce qui concerne l'impunité, c'est elle doit également intervenir. Et vous voyez que par rapport au ministère de la Justice, il y a la mise en place des chambres, la mise en place des cellules d'appui aux poursuites judiciaires. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour l'organisation des chambres foraines pour essayer d'avancer cette histoire des violences. Donc vous voyez qui elle a pu voir, elle a ciblé ses interlocuteurs pour justement essayer de les interpeller et de les amener à mettre en place des mécanismes pour pouvoir effectivement lutter cette fois-ci, alors avec des résultats probants. Parce qu'on parle de l'impunité. Si on parle en termes d'impunité, c'est le ministère de la Justice qui est visé. Si on parle de réparation, c'est également le ministère de la Santé. Je me demande, bon, elle n'a pas vu le ministre de la Santé, mais je pense qu'avec tous ceux qu'il a vus, tous ses interlocuteurs avec lesquels elle a échangé, je crois qu'avec ça, c'est amplement suffisant pour pouvoir faire le travail qui s'impose. Par rapport à la réparation, il y a la punition des auteurs, mais également, il y a la réinsertion sociale qui doit, dans un socio-économique, qui doit être mise en place pour revaloriser ces femmes, pour leur donner.
Ça demande beaucoup de moyens.
Cela demande beaucoup de moyens. Je vous ai dit au début que le ministère du Genre a mis en place en 2009 le Fonds national pour justement essayer de soutenir ces victimes. Au finish, après tout le processus, il faudra une réinsertion socio-économique de ces personnes. Et donc, il faudra des fonds, mettre à disposition des fonds, mettre à contribution des fonds pour aider ces victimes à pouvoir être réhabilitées socialement, économiquement.
Merci Madame Florence Boloko. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du Centre national de diffusion de l'information sur la femme et la famille au ministère du Genre, Famille et Enfants. Professeur Georgette Biébié, ne peut-on pas craindre finalement que cet accord n'ait aucun impact sur la lutte contre les violences sexuelles en RDC, du moment que cette impulsion semble venir de l'extérieur et non de l'intérieur des Congolais, du gouvernement congolais. Professeur Biébié, voilà, nous l'avons une fois de plus perdu. Maître Guy Mouchata, est-ce que vous nous suivez?
Je vous suis.
Voilà, maître, vous pouvez répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure.
Oui. Mais je pense, à mon avis, que l'impact d'un texte dépend de mesures pratiques, disons, du plan d'action qui doit être exécuté. Je pense que le gouvernement et les Nations Unies ont affirmé un certain nombre d'engagements. Il revient maintenant aux deux parties de mettre en œuvre un plan de travail, un plan d'action concret avec des activités qui doivent se dérouler sur le terrain. C'est en ces moments-là seulement que nous pourrons juger de l'efficacité de cet accord. Mais néanmoins, le résultat dépend de la préparation. À mon avis, il faut aller dans le sens d'une stratégie holistique qui prend en charge les différents volets de la question et qui donne des réponses qui peuvent, tant soit peu, contribuer à ce que l'ensemble des activités menées soient coordonnées et aboutissent à un résultat. Autrement, comme certains des intervenants le disaient tantôt, des mesures sectorielles prises sans coordination et sans beaucoup de réflexion ne peuvent pas conduire à un impact réel. Mais je pense que l'ensemble de ces mesures ne pourront effectivement constituer une bonne réponse lorsqu'on aura trouvé une réponse au problème de la réforme du secteur de sécurité. Et notamment, une des mesures qui doit être préconisée, c'est le vetting, c'est le fait de pouvoir écarter tous les acteurs sont censés avoir commis des violences sexuelles ou d'autres crimes du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme, qui figurent dans les forces de sécurité. Et dès ce moment, je pense que ça peut être une mesure concrète qui peut faire voir à l'ensemble de la société que ce genre de comportement est rejeté. À cela s'ajoutent les mesures disciplinaires au sein de ces forces de sécurité et pour ce qui concerne les autres acteurs non membres de la société, de forces de sécurité, c'est la justice qui doit faire son travail. Et même pour les forces de sécurité, les mesures disciplinaires ne suffisent pas. Il faut que la répression pénale soit mise en place et que toute la chaîne pénale, comme je le disais tantôt, fonctionne. Mais à côté aussi de ces mesures, excusez la tautologie, il y a toutes les dispositions qui doivent être prises concernant les mécanismes de prévention, de sensibilisation et de réparation. Il faut trouver sous quel format et sous quelle stratégie tout ceci peut être mis en œuvre. Vous parlez tout à l'heure de moyens, mais je pense qu'un État doit se donner les moyens pour répondre à la criminalité qui dérange le bon fonctionnement de la société. Et dès ce moment, je pense que l'État congolais ne peut pas s'exonérer derrière le manque de moyens pour pouvoir appliquer cet accord.
Oui. Maître, il y a Willy Eloua qui nous écrit de Mbandaka à l'Équateur qui dit « L'accord seul ne suffit pas, mais il est mieux d'appuyer et renforcer notre système judiciaire en installant les tribunaux répressifs au niveau des territoires, entre parenthèses justice de proximité, pour lutter contre l'impunité et dissuader, car c'est plus à l'intérieur du pays que se perpètrent beaucoup des cas de violence sexuelle qui ne sont jamais portés à la connaissance des juges. » Brève réaction, je vous en prie.
L'auditeur a tout à fait raison. Je pense que nos juridictions pénales sont assez éloignées et il y a lieu de penser à pouvoir étendre les juridictions, donc le tribunal de paix sur l'ensemble des territoires, parce qu'il y a des gens qui doivent parcourir 200, 300 kilomètres avant de voir un juge, avant de voir un parquet. Et je pense que le gouvernement peut prendre des mesures dans le sens d'avoir des parquets secondaires implantés. Pourquoi pas au niveau même des collectivités chefferies, pas nécessairement au niveau des territoires, ce qui permettrait au moins que les parquets puissent être au fait de faits répressifs et ainsi instruire. Et lorsque la juridiction de jugement est en audience foraine, elle peut trouver sur place un bon nombre de cas pour lesquels elle peut statuer. Je pense que l'auditeur a tout à fait raison. L'accès à la justice est un élément important. Mais il faut ajouter ce qu'on ignore souvent.
Très rapidement,
notre justice n'est pas gratuite. Pour accéder à la justice pénale, les parties civiles sont censées payer. Il y a les frais aussi qui sont liés à la consultation des avocats et tout ça. Donc la réponse est très globale, comme je disais tout à l'heure, et la réforme les différentes lois sur la justice doivent tenir compte de ces éléments pratiques.
Merci, Maître Mouchata. Professeur Biébié, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis là.
Voilà. Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. On tend déjà vers les conclusions. De votre point de vue, cet accord aura-t-il un impact sur dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC, en guise de conclusion déjà?
Je pense que oui. Je pense que oui. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, j'espère que les politiques vont s'engager pour mettre en application cet accord. Et comme nous l'avons dit, il vient appuyer la déclaration de Kampala sur la prévention avec notre campagne. Je dénonce et je dis non. Nous poussons les victimes à dénoncer, à briser le silence, à porter plainte contre les auteurs des crimes. Le deuxième axe, comme je l'ai dit, c'est la lutte contre l'impunité. Et là, nous avons encore une campagne tolérance zéro au niveau national et au niveau régional, la région des Grands Lacs. Nous poussons également avec des actions de plaidoyer auprès des autorités pour que la loi soit mise en application. Et le troisième axe, c'est la prise en charge. Comme vient de dire celui qui vient de parler avant moi, il faut une prise en charge et un accompagnement juridique parce que les procédures judiciaires sont souvent longues et coûteuses, donc il faut accompagner les victimes pour qu'elles ne se découragent pas. Nous militons contre les arrangements à l'amiable. Nous voulons que ceux qui commettent ces crimes soient traduits en justice et soient sévèrement sanctionnés. Donc nous avons un grand espoir que cet accord va renforcer les instruments que nous avons déjà au niveau national pour essayer de réduire les violences sexuelles et les violences basées sur les genres.
En deux mots, Madame Biébié, on a aussi l'impression que l'intellectuel est aux femmes des cités urbaines.
Non, nous disons que les femmes intellectuelles réfléchissent pour monter les plans de campagne. Campagne, je dénonce et je dis non, campagne tolérance zéro, mais nous les faisons à la base auprès de communautés pour sensibiliser les victimes, pour sensibiliser aussi les populations. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement les victimes qui portent plainte, il faut qu'il y ait des témoins qui acceptent de témoigner, d'apporter des preuves. Et d'ailleurs, en 2010, quand nous étions à Mwenga, là où on a enterré les 15 femmes vivantes, la déléguée de la CPI qui était là a lancé un appel dans la foule en disant que toute personne qui avait des preuves, qui connaissait des auteurs, qui avait enterré ces femmes, ces 15 femmes vivantes, devait les amener auprès du ministère du genre.
Merci.
Donc nous continuons à travailler auprès de communautés de base.
Merci professeur Biébié. Madame Florence Boloko, juste un mot pour conclure.
Pour conclure, moi, je vais dire que...
Faut-il espérer par rapport à cet accord?
Je pense qu'il faut espérer. Il y a toutes les raisons de pouvoir espérer. D'abord parce que cette émission, je pense que vient enfoncer le clou pour essayer de réveiller des esprits pour dire, écoutez, elle constitue également une interpellation. Il y a deux semaines de cela, il faudra que la représentante spéciale du secrétaire général, là où elle est partie, qu'elle se dise, écoutez, j'ai signé un accord. Il y a un accord derrière moi que j'ai signé et il faut que les actions suivent.
Merci.
La même chose pour le Premier ministre également.
Le gouvernement congolais qui doit prendre ses responsabilités.
Oui, qui devra prendre ses responsabilités.
Merci,
les
madame.
Outils sont là.
Merci. Merci Madame Souffré que je vous arrête par là. C'est par ici que nous terminons cette émission. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.